France Culture.
Bonjour le Book Club. On découvre une BD tendre, drôle, qui de mon point de vue peut émouvoir des personnes de tous les horizons. Votre dessin est surprenant, turbulent. C'est un texte très riche qui est servi par une forme que j'ai absolument adorée.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Que nous reste-t-il de nos enfances? Quelles traces ont-elles laissées en nous et comment les raconter? Deux questions au cœur de votre book club aujourd'hui à travers deux premières bandes dessinées qui racontent une histoire intime et une trajectoire de plusieurs années. Lucie Morel fait le récit de son enfance, marquée par la prise de conscience de la mort possible des êtres aimés et l'angoisse associée qui se traduit par l'apparition de troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, avec lesquels elle a dû apprendre à cohabiter. Thomas Brosset explore quant à lui les 4 années de sa vie où il s'est vu devenir le parent de ses parents malades et la façon dont cette expérience le renvoie à sa propre enfance à leur côté. Il et elle sont nos invités. En fin d'émission, comme chaque mardi, enfance encore avec de la littérature jeunesse, Raphaël Botte met aujourd'hui en lumière le travail de Philippe Dumas. Pour finir, on cherchera comme chaque jour de la musique dans un livre. On est ensemble pour une heure, on sort les crayons de couleur. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Lucie Morel et Thomas Brosset, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le Book Club. On est ravis de vous accueillir. Lucie Morel, Toc Toc, c'est le beau titre de votre bande dessinée qui a paru aux éditions Même Pas Mal, tous derrière et eux devant celui de la vôtre. Thomas Brosset, paru quant à elle aux éditions Flubbelub. Elles ont aussi pour point commun d'avoir un très beau titre chacune. Elles ont toutes les deux été en lice pour recevoir le prix toute première fois du merveilleux festival de BD de Colomiers ou encore le prix Prima Bulla qui vous a été décerné. Lucie Morel, bravo pour ça. On va revenir tout à l'heure sur la matière même de ces deux livres dans lesquels on a vu plein d'échos, thématiques, graphiques aussi. Mais pour commencer ici, on a pour habitude de faire d'abord le portrait de nos invités en tant qu'ils et elles sont des lecteurs, des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre dans quel paysage vous avez découvert la lecture? Il se trouve que dans chacun de vos deux livres, il y a des petites notes comme ça sur la découverte de la lecture dans l'enfance ou dans l'adolescence. Thomas Brosset, vous racontez comment, avant de partir en vacances, vos parents vous autorisaient à acheter tous les livres que vous vouliez pour que vous puissiez les lire dans la voiture, et comment la lecture par votre mère de textes, de bandes dessinées notamment, c'était le plus beau moment de votre enfance. Et Lucie Morel, vous vous mettez en scène un peu plus tard au lycée et la découverte extraordinaire pour vous d'un poème de Baudelaire. C'est quoi vos premiers souvenirs d'émotions peut-être associées à la lecture dans l'enfance?
Ouf, moi je dirais que c'était une émotion pas forcément agréable au départ. J'ai vraiment le souvenir de l'effort de lire en fait. Ma mère est institutrice et elle adore lire. Vraiment, tous les soirs, elle lisait. D'ailleurs, je le raconte dans la BD qu'elle s'endormait sur son livre tous les soirs. Et elle nous conseillait souvent des lectures. Et vraiment, quand j'étais petite, je trouvais ça hyper cool, l'idée de lire. Donc, je me suis vraiment attelée et je me suis entraînée à lire pour réussir à apprécier. Mais c'était pas réussi d'avance, quoi.
Il y avait quelque chose d'un peu difficile dans
Oui, dans la concentration, dans le fait, l'état un peu méditatif où on se plonge dans la lecture. Ça a été difficile pour moi, mais je trouvais ça stylé, on va dire, de lire des livres. Et du coup, à force d'efforts, j'ai aimé la lecture, mais j'aurais pas, par contre, de titre particulier là qui me vient en tête. Tout de suite.
Et est-ce que, sans forcément que ce soit associé à un titre en particulier, mais est-ce qu'il y a un moment où, du coup, de cette chose un peu qui demandait un effort à la base, est-ce qu'il y a un moment où vous vous souvenez que c'est quand même devenu un plaisir? Ça a été quelque chose de plus facile ou est-ce que ça a toujours gardé une forme
Non, ça a vraiment basculé dans quelque chose de magique, en fait, comme un refuge. Où vraiment à force d'entraînement, ce moment où en fait on lève les yeux de son livre et on se rend compte que ça fait 2h30 qu'on est en train de lire et que on avait complètement tout oublié et que c'est un endroit où on peut revenir quand on veut. Donc non, moi, c'est devenu vraiment quelque chose de génial. Et encore aujourd'hui, les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une rencontre aussi, la lecture. Enfin, c'est un peu comme le sport, c'est un peu c'est un effort. Mais quand on a ressenti le plaisir que ça peut apporter, c'est un peu addictif, quoi.
Vous disiez pas de titre, je veux pas vous piéger, mais quand vous parlez de voilà cette sensation de la lecture où oh là là, on se rend compte tout d'un coup, ça fait 2h30, on lit, on s'était pas rendu compte. Il y a aucun roman en particulier dont vous vous souviendrez, roman ou bande dessinée d'ailleurs, ou quelque forme de livre que ce soit.
Trop. Après, alors je me souviens que j'avais lu Ensemble c'est tout quand j'étais adolescente. Et il me faisait très peur parce que c'était
c'est
un
quoi,
gros pavé.
C'est quoi, je sais pas ce que c'est.
Alors, je ne sais pas qui est l'auteur, mais il a été adapté après en film avec Audrey Tautou.
Ouais.
Et il est assez gros.
C'est un livre d'Anna Gavalda.
C'est ça.
On me souffle complètement dans le casque.
Tout à fait. Ouais, ouais, exactement.
Merci c'est Anna, avec notre réalisatrice.
Donc, c'est le premier souvenir de vraiment un gros pavé que j'avais pas forcément envie de commencer et où on se rend compte qu'on a lu 200 pages, quoi.
Mm-hmm. Et vous, Thomas Brosset, les sensations peut-être de la lecture dans l'enfance? Alors un peu à l'arrière d'une voiture notamment, si je vous
ouais,
ai bien
c'est
lu.
Ça. Ben, les premières, c'est vraiment Tintin, effectivement, vous en parliez. Certains soirs, ma mère rentrait avec un album de Tintin et moi, elle me faisait la lecture parce que je savais pas lire. Et ça, c'est vraiment un des souvenirs vraiment assez merveilleux de lecture. Et puis l'été, on partait en camping systématiquement à l'étranger chaque année, en 4L puis en R16 après, mais et pour des possiblement longs trajets. Et le rituel, effectivement, c'est qu'on allait à la librairie et j'avais un quota, je pouvais acheter une dizaine, une quinzaine de bandes dessinées et autant de romans.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est chouette,
c'est
sympa, vos parents.
Ouais, 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 complètement. Dans la famille, les livres étaient vraiment quelque chose de très, très important. Une espèce de marqueur de... ne pas offrir un livre à Noël, c'est pas possible.
Mm-mm.
Et du coup, oui, je pense que j'ai été plusieurs fois en Grèce en 4L sans voir rien du paysage entre le départ et l'arrivée. Parce que
et ça représente quelques heures quand même.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
De voyage.
Donc, plongé dans la lecture en voiture.
Vous vous souviendriez de quelques titres en particulier, que ce soit bande dessinée ou roman, qui, voilà, jusqu'à aujourd'hui, dont vous avez comme ça, peut-être pas le souvenir même des histoires, mais d'une sensation d'être complètement absorbé comme ça par des...
Oui, il y a un livre, j'ai pas l'auteur, ça s'appelait Les 12 corbeaux. C'était une histoire de sorcellerie. Je m'en rappelle parce que arrivé à la fin, je l'ai recommencé. Vraiment, parce qu'il m'avait captivé et qu'on avait encore 3 jours de route. Et du coup, je me dis, allez, je l'ai vraiment recommencé aussi sec. Et sinon, des livres aujourd'hui ou des bandes. Alors, ouais, j'en ai parlé à ma famille avant de venir. Je dis, qu'est-ce que je vais raconter comme livre très spontanément, une de mes filles m'a dit, il faut que tu dises que tu adores Ariol. Alors, Ariol, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment...
Un peu que je vois, ouais, Ariol, ouais. Bande dessinée scénarisée par Emmanuel Guibert et dessinée par Marc Boutavant, qui je tiens pour un chef-d'œuvre absolu de la littérature jeunesse.
Ouais, mais je suis d'accord, je trouve que c'est... Alors, je ne lis pas Ariol tous les jours.
Mais ça, c'est une lecture que vous partagez avec vos filles, du coup. C'est vous devenu... Puisque Ariol, ça existe depuis 20 ans maintenant, je crois.
Peut-être.
Juste comme ça, ouais.
Ouais, alors c'est terminé, mes filles, elles sont grandes et on est passé à autre chose que la lecture du soir, mais pendant longtemps, il y a eu ça. Et vraiment, je trouve ça hyper fort parce qu'en fait, ça explore tout un panel d'émotions de manière très fine et très diverse. C'est pas caricatural, c'est pas des grandes histoires, c'est pas des héros, c'est très fin, je trouve.
C'est l'histoire d'un petit garçon, enfin c'est un petit âne, mais qui a tout d'une apparence, il a l'apparence d'un âne, mais je veux dire, il est debout, il est comme un humain, en tout cas on s'identifie beaucoup à lui et qui est dans sa classe de CM1, je crois, et dont on suit les aventures avec ses copains, dont Ramono, son petit copain cochon. On vous reçoit tous les deux pour des bandes dessinées. Vous avez cité Tintin, Thomas Brosset, Ariol à l'instant, qui est aussi une bande dessinée. Est-ce que les bandes dessinées ou les livres d'images, les albums plus généralement, ont joué un rôle particulier dans votre, découverte de la lecture, Lucie Morel? Ou dans votre envie après de dessiner à votre tour, tout simplement.
Oui, alors en fait, donc quand j'étais plus petite, je lisais des romans. Mais je lisais pas trop de BD et c'est vrai que je connaissais pas trop en fait. Donc j'avais l'impression que la BD c'était vraiment les Lucky Luke, Tintin, etc. Il y a mes cousins qui lisaient de la BD, mais on n'avait pas de BD à la maison et je connaissais pas trop. Et en fait, c'est quand j'ai décidé à mon tour de faire une bande dessinée autobiographique que j'ai commencé vraiment à découvrir en fait l'univers de la bande dessinnée. Donc c'est assez récent au final.
Ah oui, c'est il y a pas si longtemps du coup, puisque c'est quand vous vous êtes mis à l'écriture de ce qui est devenu Toc Toc.
Exact. Ouais. C'était quand même il y a 7 ans, parce que j'ai commencé il y a 7 ans. Mais voilà, j'ai découvert la BD il y a une dizaine d'années à peu près. Et pour citer des noms, moi vraiment la BD où je me suis dit ah en fait on peut faire ça et où que je me suis servi un peu comme modèle, c'était une BD de Ludovic de Berme qui s'appelle Ludologie. Tout au trait noir comme ça, que je trouvais trop chouette. Et après, j'ai découvert Fun Home de Alison Bechdel. Après, maintenant, j'ai plein de références. Je ne sais pas si je l'ai dit maintenant.
Non, mais pourquoi pas. Mais ça veut dire que c'est des bandes dessinées. À la fois, ça vous éveille à la puissance de ce langage graphique-là, ou c'est aussi des bandes dessinées qui ont joué un rôle d'influence d'inspiration directe pour ce livre-là dont on va parler, qui est Toc Toc.
Les deux. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un rapport cinématographique à la bande dessinée, parce que c'est séquencé, la narration elle est aussi sur un temps long, puis il y a des images, donc il y a des points de vue, etc. Et rapidement, j'ai quand même une appétence plus pour les BD autobiographiques, tout comme j'adore le documentaire, par exemple. Et en fait, je trouve que ça amène des possibilités vraiment énormes, comme dans la BD de Thomas, de revenir dans le temps, de mêler différentes temporalités sur la même double page, de se représenter différemment pour montrer différentes manières de se voir. Enfin, je trouve que c'est vraiment, je trouve ça magique en fait. Puis on peut revenir 10 pages en avant en se rendant compte qu'il y a un lien avec la page qu'on est en train de lire. On peut se faire sa propre lecture aussi, un peu comme un puzzle, quoi.
Ouais, un peu comme un voyage, on peut circuler entre les pages et dans les années que raconte le récit. Vous alliez citer d'autres titres, à part Alison Bechdel, à part Ludovic de Berme.
Oui, il y a les livres de Manon Debaille, que j'aime beaucoup, dont le dernier qui s'appelle Défi normal, je crois. Il y a Ma famille imaginaire de Edith Chambon, que j'avais adoré, qui parle des secrets de famille, qui est aussi au crayon de couleur ou au feutre, je sais plus, mais hyper coloré avec un aspect un peu enfantin comme ça. Et après, moi, j'ai fait les beaux-arts, donc en fait, ma culture de la BD, j'ai aussi une culture du dessin contemporain, etc. J'adore Yann Kebi, par exemple. Ludovic de Berme, dont je parlais tout à l'heure, il est aussi peintre. Donc voilà.
Est-ce que depuis que ce livre est terminé, depuis qu'il vit sa vie maintenant sans que vous ayez besoin d'être à votre table plusieurs heures par jour, vous continuez à lire de la bande dessinée ou c'est pas forcément vos lectures privilégiées? Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet en ce moment?
Des BD, des BD, des BD.
Ouais.
En fait, je suis devenue complètement accro à la BD. Un peu, j'adore le cinéma et je me suis rendu compte que j'adore les romans, mais que vraiment, je suis amoureuse de l'image. Je peux pleurer devant des peintures. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Rualing Su. C'est une peintre qui fait des peintures absolument bouleversantes et magnifiques sur l'enfance et qui sont vraiment époustouflantes. Et je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse de la bande dessinée et donc je lis quasiment plus que ça.
Recommandation.
Un peu trop, peut-être. Mais...
Recommandation notée en tout cas pour ce qui est de cet artiste. Et vous, Thomas Brossel, le rôle des livres d'images, vous avez cité Tintin, on a parlé d'Ariol, mais est-ce que vous êtes un grand lecteur de bande dessinée par ailleurs ou pas tant que ça? Est-ce que ça a joué un rôle pour vous dans l'écriture de ce premier roman graphique?
Je ne suis pas un si grand lecteur que ça, je ne me sens pas pointu dans le sens, je ne suis pas des fils, je ne fais pas des enquêtes sur des... voilà, sur des choses que je trouve. C'est un peu ce que je croise en... Alors, soit en librairie, quand un livre me fait de l'œil, je le ramène. Et puis en bibliothèque, moi j'ai un petit truc, c'est que quand un livre arrive à la maison, en général je le pose et puis il faut un peu du temps pour que je le reprenne. Il faut qu'il voilà, on s'acclimate un petit peu.
Il faut qu'il s'installe chez vous.
Ouais, c'est ça. Voilà, on apprend à se connaître comme ça, juste on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Et puis après... Ben un peu comme Lucie, de ce que je comprends, moi j'aime bien les autobiographies, les témoignages, donc il y a des petites choses des fois qui émergent sans que forcément je connaisse tout le travail d'un auteur ou d'une autrice. Il y a Bea Lema, une autrice espagnole qui a fait un livre qui s'appelle « Des mots à dire », qui parle de la folie de sa mère et de elle en tant qu'enfant, dans qu'est-ce que c'est de vivre dans une famille où la mère a des troubles psychiques importants. Et bah voilà, c'est un livre qui m'a marqué, qui est très beau en plus. Il y a des pages qui sont réalisées en broderie. Donc c'est vraiment de la bande dessinée, mais c'est brodé. Mmh. Et donc ça aussi, c'est encore une... j'aime bien, ça commence à... Le changement de médium vient toucher, vient percuter d'autres sens et d'autres couches émotionnelles. Enfin voilà, ça... Ça décale un petit peu, puis du coup voilà, ça raconte un peu différemment. Mais je sais que depuis la sortie de cette BD, j'aime bien mentionner un livre de Jeffrey Brown qui s'appelle AEIOU. Alors je sais qu'il a fait plein de choses, je crois, sur la guerre des étoiles. Je connais pas en fait.
Moi non plus.
AEIOU, c'est une histoire d'amour. Voilà, il raconte. C'est une histoire d'amour terminée, donc, et c'est des moments comme ça, qui, de mémoire, sont un peu mélangés, mais c'est des souvenirs de moments marquants, et c'est très sensible. Et du coup, voilà, c'est des choses qui me parlent.
Et sur votre table de chevet, en ce moment, il y a quoi? Et c'est OK s'il n'y a rien, on a le droit de ne pas lire aussi.
Oui, ouais, non, moi j'ai des périodes où je lis et d'autres où je ne lis pas. Dans les romans, j'adore Laurent Godet. J'aime Édouard Louis, Mauvigné. Pareil, je me posais la question. Je crois qu'un des livres qui m'a plus marqué ces derniers temps, c'est Neige Sino, Triste Tigre, qui est vraiment. On se fait percuter un peu par ce livre. Après, j'aime bien. Il y a des fois des livres d'anthropologie que j'aime bien.
Vous avez fait des études d'anthropologie vous-même, je crois, pour commencer.
Ouais. J'étais jusqu'à la maîtrise, j'ai quitté après, mais du coup, alors après, c'est vrai que des fois, je prends des raccourcis en allant écouter des conférences, et enfin voilà, ce qui est des accès, ça me donne un accès plus facile des fois à la pensée d'un auteur, typiquement en anthropo, que de lire. Mais voilà.
Des choses variées, en somme.
Ouais.
On va aller vers vos deux livres, dans la matière même de ces deux bandes dessinées, Lucie Morel et Thomas Brosset. Pour nous y emmener, je vous propose qu'on écoute cette chanson extraite d'un album de la chanteuse Nico. C'était en 1970. L'album s'appelait Desert Shore. C'est une comptine médiévale qui est interprétée par son fils Harry, un petit garçon à l'époque. C'est lui qu'on entend chanter sur ce titre.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter. J'irai te visiter.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
enfance, fragilité, angoisse, mais aussi douceur, tendresse et apaisement, tout ça au programme de votre book club aujourd'hui à travers le dialogue entre deux premiers romans graphiques. Lucie Morel vous racontait dans Toc Toc les années de votre jeunesse, de la naissance au premier temps de l'âge adulte, marquée par l'apparition de ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs et avec lesquels il vous a fallu au fil des années apprendre à composer. Thomas Brosset, vous dessinez de votre côté les 4 années au cours desquelles vous avez accompagné vos deux parents à la fin de leur vie, leur fragilité grandissante et le poids de cette responsabilité-là. Il se trouve que tous les deux vous mettez en scène au début de vos récits le souvenir d'un accident de voiture vécu dans l'enfance aux côtés de vos parents. Il marqua pour vous, Lucie Morel, l'apparition de ces pensées obsédantes et envahissantes. Il vous revient, Thomas Brosset, après que vous venez d'apprendre que votre père, très âgé, ne pourra plus remarcher. À ce moment de bascule, donc, où vous comprenez que vous allez devoir devenir son parent. Et c'est peut-être parce que nos vies sont accidentées, par essence, parce que nos existences sont une succession de secousses, que ces deux accidents nous restent en mémoire tout au long de ces deux histoires, que vous comptez avec des crayons de couleur, des photos de famille et des archives, comme pour accrocher la singularité de vos parcours à celle de notre histoire collective à tous et toutes. On vous retrouve pour parler de ces deux bandes dessinées, Toc Toc, donc le titre de la vôtre, Lucie Morel, qui a paru aux éditions Même Pas Mal, Tous derrière et eux devant, le titre de votre livre, Thomas Brosset, aux éditions Flubbelub, et entre autres points communs, ils sont aussi vos premiers livres à tous les deux. Je voudrais commencer par vous interroger sur quelque chose qui a trait à la forme même de ces deux ouvrages. C'est ce qui nous a frappé en premier, qui nous a donné l'envie de les réunir, par-delà les échos aussi thématiques, la présence de l'enfance très forte dans les deux ouvrages, mais il y a quelque chose dans leur forme, même si la singularité de votre trait est, voilà, elle vous appartient à chacun, qui fait écho aussi, c'est un recours aux photographies. Dans votre livre, Thomas Brosset, vous utilisez, placez au cœur même des planches des photos d'identité de vous-même enfant ou de vous-même adulte que vous retravaillez au feutre ou avec de la peinture, vous nous direz, en tout cas avec de la couleur. Et puis, différentes cartes postales voilà, qui interviennent et qui, à la fois, ancre comme ça votre corps d'enfant dans le livre et qui fait aussi écho à notre enfance à tous d'une certaine manière. Et puis Lucie Morel, d'une façon différente, vous aussi vous travaillez à partir de matériaux photographiques. La couverture même du livre que j'ai sous les yeux, c'est une photo de classe voilà, dans laquelle que vous retravaillez, dans laquelle vous insérez des dessins, que vous retravaillez aussi avec vos outils propres. Et voilà, dans les deux cas, il y a comme ça une façon de partir du plus singulier, l'archive personnelle, l'archive familiale, pour en même temps renvoyer pour nous lecteurs à notre histoire collective, parce qu'on se reconnaît dans ces photos familiales-là, on reconnaît les décors, on reconnaît l'époque, on reconnaît des tas de choses. Comment c'est venu pour l'un et l'autre de travailler à partir de ces archives-là, Lucie Morel?
Moi, c'est parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Donc déjà, j'adore regarder mes photos. Quand j'étais petite, j'adorais. Je l'ai enlevée de la 4e de couve, mais c'était une partie du texte. J'adorais prendre ma boîte à photos et étaler tout sur mon lit et les regarder, et me remémorer les souvenirs et pleurer. J'adorais pleurer en regardant mes photos. Et c'est vrai que, je suis très attachée déjà à l'objet photographique. Et puis, j'ai jamais aimé les photos posées. J'ai toujours bien aimé les photos un peu mal cadrées, où les gens regardent pas, etc. Et donc, je pense qu'à la base, c'était aussi pour me faire connaître en tant qu'artiste et pouvoir être exposée dans des galeries. Mais c'est surtout que j'ai commencé à vouloir redessiner certaines photos. Et je me suis rendu compte en le faisant que c'est comme si je replongeais en fait dans le souvenir. Et que je prenais soin du souvenir. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça, bizarre.
Ça veut dire que vous utilisiez, je rebondis sur ce que vous disiez, à la base c'était pour me faire exposer aussi dans des galeries, pour développer mon travail d'artiste, ça veut dire que ce recours-là, il préexiste au projet de ce livre. C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, avant même de vous lancer dans l'écriture de cet ouvrage.
En fait, l'idée de faire le livre, elle m'a été donnée par ma psychologue de l'époque que je rencontre quand j'ai la vingtaine. Et qui me dit qui me dit ça un peu après d'ailleurs, et qui me dit vous devriez écrire un livre sur les TOC, ça n'existe pas des livres accessibles et populaires, entre guillemets. Et du coup, je me dis, bah ok, je vais faire ça, vite fait, bien fait. Et ça m'a pris 7 ans. Sauf qu'en même temps, bah, je sortais des Beaux-Arts et je voulais me faire un nom d'artiste et essayer de travailler. Et donc, j'ai fait ça de manière parallèle, en fait, pendant de longues années. Et ce que je disais à Thomas tout à l'heure, c'est qu'en fait, les photos, enfin, les deux styles qu'il y a dans la BD, c'est pas vraiment un choix. C'est que j'ai travaillé ça parallèlement et que je me suis dit qu'en fait, ça faisait complètement sens d'avoir ces deux styles-là.
Deux styles, donc le recours à ces photos retravaillées et aussi des planches au crayon de couleur, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout est au crayon de couleur, ouais. mais un style beaucoup plus lâché à la main, un peu cartoon, voire grotesque, etc. Donc oui, c'est vraiment, ça a été deux travaux qui sont liés depuis le début, mais qui ont quand même été séparés. Et les dessins ont aussi été exposés en galerie complètement bien avant la sortie du livre.
Et vous, Thomas Brosset, elles sont arrivées à quel moment de l'écriture de ce livre, les photographies, est-ce que c'était là dès le départ?
C'est venu assez. L'idée de la photo est venue assez rapidement parce que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition une trentaine de pages et puis j'ai commencé à discuter avec Grégory Jarry de Fleubeleu et qui m'a posé des questions sur le livre et j'ai mentionné que j'avais l'idée de possiblement mettre des photos. Il m'a encouragé dans cette voie-là. Moi, il y a une époque de ma vie, je collectionnais les photos anonymes trouvées. Je faisais les poubelles dès que je voyais une maison qui était vidée. J'étais hyper doué pour ça. C'était comme ramasser des champignons et j'avais des sacs et des sacs d'albums de famille et j'avais un peu l'impression qu'il fallait vraiment sauver ces gens, que de les remettre à la poubelle, c'était les enterrer une deuxième fois. Bon, j'en ai beaucoup parlé à ma psy, tout va bien maintenant. Et puis, par la force des choses, je me suis retrouvé, après le décès de mon père et le départ en maison de retraite de ma mère, à vider la maison familiale, donc un pavillon avec 40 ans de vie de famille dedans, et donc avec les albums de photos, les petites pochettes plastiques étiquetées avec les photos, les disques durs. Et j'ai trouvé que ça s'intégrait bien dans le bouquin parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça ramène une autre couche aussi. Le dessin, il raconte une histoire, mais voilà, avec une prise avec le réel qui est particulière au dessin, une espèce de distance et à la fois d'universalité que permet le dessin. Et puis la photo, elle vient dire, c'est vraiment des gens qui ont existé, c'est vraiment ça ramène à l'humain, à la vie, à des traces. Donc ça parle sur un autre registre. Et puis moi, j'ai trouvé vraiment intéressant les passerelles. À la fin du livre, il y a une photo de deux chaînes dans un champ. C'était dans une première maison. Je me rappelle, mes parents, à chaque fois qu'ils passaient, ils disaient « Ah, les deux chaînes, c'était vraiment un truc important. » Et maintenant, c'est un peu ça renvoie à mes parents. Voilà, qui sont...
Et ce qui est assez saisissant, c'est que, encore une fois, on se projette dans ces photos-là, qui, pourtant, c'est des décors très singuliers, des géographies qui ne sont pas forcément proches de celles qu'on a connues, mais tout un chacun peut s'y projeter, et y projeter, du coup, son enfance aussi, peut-être parce qu'on se souvient aussi de son enfance avec ces objets-là. Pardon. Je voudrais qu'on écoute la question de Lucille. Elle est libraire à la librairie À la Marge à Montrouge et elle a lu Toc Toc, Lucie Morel. Elle a beaucoup aimé votre ouvrage. On l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour Lucie Morel. Toc Toc a été pour moi la découverte de cette rentrée au rayon BD. Déjà parce que la couverture, cette copie d'une photo de classe, est saisissante, mais également parce qu'à la lecture, on découvre une BD tendre, drôle, éclairante sur un sujet de santé mentale qui, de mon point de vue, peut émouvoir des personnes de tous les horizons. C'est un texte très riche qui est servi par une forme que j'ai absolument adorée. Votre dessin est surprenant, turbulent et permet de saisir la matérialité des tocs au quotidien, à concrètement montrer le temps que cela peut prendre sur une journée et de quelle manière ça peut enfermer et handicaper considérablement. Vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui est en lien avec la forme que vous donnez à votre récit. Vous déployez des styles radicalement différents, avec cette alternance entre un dessin caricatural, parfois grotesque, et les copies presque hyper réalistes de vos photos de famille. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez réparti ces différents styles et pourquoi ? Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Lucille, pour cette question. On avait commencé à en parler. Lucie Morel, Lucille vous interroge sur la manière dont vous avez réparti ces différents styles. Elle en nomme deux à gros traits, comme vous le faisiez tout à l'heure. Mais au fond, on pourrait détailler et en ajouter bien plus, parce qu'aussi dans la forme même des planches, il y a des planches dessinées avec des gaufriers, donc le format classique de la bande dessinée. Il y a des doubles pages pleines. Enfin, c'est extrêmement dynamique, extrêmement varié. Comment vous avez réparti tout ça, dit-elle?
Alors, déjà, je suis quelqu'un d'assez désorganisé de base. Et donc, comme je disais, il y a eu l'élaboration des dessins photographiques où je voulais aussi faire mes preuves et je voulais vraiment faire des beaux dessins. Donc, il y a eu ces dessins-là. Et puis, mon style que j'ai toujours eu, un peu plus dégueu, plus lâché, plus enfantin, mais plus libre. Et puis... énergique, quoi. Malgré, enfin, les deux peuvent être énergiques aussi, mais... Et en faisant ça, je me suis rendu compte, justement, du panel, en fait, du fait qu'on pouvait mélanger plein de styles différents, et que mélanger des styles, comme toi, Thomas, quand tu mélanges les photos avec le dessin, ou que tu redessines sur les photos, en fait, ça vient raconter quelque chose de la rencontre de deux perceptions ou de deux réalités ou de deux univers. Et comme le sujet, donc ça tombait très bien que j'ai fait ces dessins-là pour les galeries à la base, le fait que les tocs, c'est une espèce de déformation de la réalité, on a un peu l'impression qu'on a deux incarnations, quoi, une dans la réalité, même si la réalité ça ne veut rien dire, mais dans le monde réel avec les autres.
L'image qu'on renvoie, en tout cas, la façon dont les autres nous perçoivent.
Voilà, et le fait qu'au même moment que je vous parle, je peux être en train de me dire que je me suis mal lavé les mains, pas parce que j'ai peur d'avoir des germes, mais parce que je l'ai délavé un nombre de fois qui va porter malheur et qui va faire que ma sœur, il va lui arriver un truc, et que du coup, je pense au fait qu'il faut que j'y retourne. Et du coup, des fois, ça prend tellement de place qu'on n'est plus vraiment... On est là présentement, mais on n'est pas là, en fait... dans notre tête, et le fait de pouvoir mélanger les deux styles, c'est ce que j'ai vraiment trouvé, et c'est en ça que je me suis éclatée. Donc les pages où on a en fait les dessins qui sont assez photographiques, qui sont déformés par les grosses têtes ou par d'autres dessins un peu plus brouillons placardés au-dessus, je trouvais que ça montrait bien justement la rencontre de ces perceptions-là. Et puis après, c'est parce que, comme je disais, en fait, moi, j'ai découvert la bande dessinée il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai fait les Beaux-Arts, mais on n'avait pas de cours de bande dessinée, et que, en fait, j'y connaissais absolument rien, du tout. Et comme pour moi, c'était important de mettre ces beaux dessins, entre guillemets, sur lesquels j'avais passé beaucoup de temps, ça s'est imposé à moi, en fait, de ne pas avoir une espèce de trame... qui soit la même tout le long du livre. Donc, assez rapidement, je me suis dit, OK, il va y avoir des pleines pages, il va y avoir... ça va être hybride. Et du coup, après, je pense que j'ai décidé volontairement aussi d'en jouer, en me disant, OK, vu que de toute façon, il n'y a pas de logique, autant jouer à fond sur toutes les possibilités.
Ça vous a offert une liberté, en fait, le fait de ne pas avoir eu de formation, même de ne pas si bien connaître que ça, la bande dessinée au départ. Peut-être à dire un mot détaillé, vous avez mentionné les grosses têtes. Oui. C'est l'une des inventions graphiques vraiment saisissantes de votre livre. Vous vous représentez vous-même très souvent, que ce soit donc dans les photos retravaillé ou dans les dessins, purement dessins, si je puis dire, par ailleurs, avec une tête qui a un espace laissé énorme en haut du crâne, à la place du cerveau, en gros, et espace dans lequel vous inscrivez ces pensées obsédantes qui arrivent au milieu de scènes du quotidien et qui envahissent littéralement l'espace de votre tête. Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé assez rapidement, cette idée graphique-là.
Pas du tout. Et je pense que c'est ce qui fait la force, entre guillemets, du livre, c'est que ça a vraiment été un projet sur un très long temps, qu'il y a eu donc ces dessins pour les galeries, qu'il y a eu plein de tentatives justement pour être pour pouvoir illustrer pour des magazines ou pour faire mes preuves, entre guillemets. J'ai vraiment beaucoup expérimenté et j'ai beaucoup cherché. Et en fait, je suis devenue un peu accro au fait de chercher aussi des techniques, des choses, de superposer, de faire des couches, etc. Et c'est arrivé assez tard, mais j'étais très contente quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est exact. Enfin, ça montre vraiment la matérialité de la place que ça prend. Et on comprend bien que c'est invisible pour les autres puisque ça se passe vraiment dans la tête de la personne. Donc non, c'est pas du tout venu tout de suite.
C'est une incarnation de ces réalités parallèles que vous décriviez, et c'est assez saisissant aussi parce qu'en relisant le livre hier, je me disais mais c'est étonnant, ces espaces donc dans votre tête, dans la tête de votre personnage, ça ressemble aussi à des bulles, à ces fameux phylactères de bande dessinée. Ça a la même forme, donc c'est vraiment une idée de bande dessinée propre.
Tout à fait, mais en fait c'était pas du tout voulu. À mon avis, je pense que j'ai dû voir une fois dans une expo un dessin où il y avait peut-être quelque chose, et en fait, en développant cette idée, effectivement, je me suis dit, mais en plus, c'est comme une bulle de BD, mais c'est assez chouette de se faire surprendre par ses propres découvertes.
On va écouter un extrait de ce livre qui laisse aussi une place assez importante au texte. Alors en fait, depuis que je suis petite, le 1, c'est ma mère, parce qu'elle est née en premier. 2, mon père. 3, Pauline. Du coup, fallait que je fasse 4, moi. 5, Léa. Du coup, fallait que je fasse les choses 6 fois. Parce que 6, c'est personne du coup. Sauf que 6, c'est 5 plus 1, donc maman. Et ma mère, c'est aussi le 9, parce qu'elle est née le 9. Mon père, le 12, mais Pauline, le 28, donc aussi 8. Et Léa est née le 14-2, donc 14, mais 4, c'est moi, donc pas elle. Donc en fait, c'est sans issue. Et les systèmes dans ma tête ont changé plein de fois. Mais du coup, depuis pas longtemps, je fais les choses 4 fois. Comme ça, au pire, si quelqu'un meurt, c'est moi. Mais bon, j'ai super peur de mourir, alors ça change, des fois. Puis je fais des séries aussi de 4, du coup. Genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 6 x 4, mais 6 x 4 égale 24. Enfin bref, c'est n'importe quoi, vous voyez. C'est une scène plutôt vers la fin de votre bande dessinée, Lucie Morel, Toc Toc. Vous êtes face à celui qui va devenir votre psychologue, que vous finissez par aller voir alors que vous êtes déjà aux Beaux-Arts, vous faites vos études, et puis vous découvrez que peut-être c'est une bonne idée d'aller voir quelqu'un, comme on dit, et vous lui racontez. On entend là comment vous arrivez à incarner, comme le disait Lucille tout à l'heure dans sa question, à incarner la réalité sensible, matérielle de ce que c'est, de comment pour vous se manifestent ces troubles obsessionnels compulsifs, donc ces pensées obsédantes. C'est à la fois très touchant et très drôle aussi. Comment il est venu, par exemple, ce texte-là? Est-ce que c'est un texte qui préexiste à ce livre, ou est-ce que c'est dans l'écriture même de la bande dessinée qu'il vous est venu?
C'est dans l'écriture même, mais en fait, ça, je ne l'ai pas raconté non plus tout à l'heure. C'est que j'ai commencé par écrire avant de dessiner. Et donc, j'ai un peu fait de la... Comment on appelle ça? De l'écriture fleuve, où j'ai vraiment tout écrit sur mon ordinateur, etc. Et j'ai essayé d'écrire mes rituels, en fait, mes tocs. Et du coup, les significations que ça avait dans ma tête. Donc, on se rend bien compte que ça n'a pas de sens. Puis, il y a eu des périodes où c'était 36, des fois où c'était 24. Là, en ce moment, c'est 59. Enfin, bref.
Ça n'a pas de sens, et en même temps, il y a une sorte de construction rationnelle. Il y a quelque chose qui ressemble à une logique très forte en même temps.
Il y a des vraies constructions logiques, sauf que comme on se rend compte que la logique, c'est un piège, et que cette logique-là, elle enferme finalement, on essaye de défaire la logique, sauf que très souvent, en fait, on crée une autre logique en défaisant la logique, et des fois, on se surprend à avoir créé une autre logique. Enfin bref, donc c'est pour ça que j'ai donc il y a eu plein de textes en fait qui ressemblent à celui-ci, sauf que là, comme il fallait tout raconter dans une seule bande dessinée, j'ai un peu condensé en fait l'essence de la logique, parce qu'il y a quand même des choses qui reviennent très souvent. Donc le 4, enfin voilà, les numéros avec les membres de la famille, ça a toujours été et ça reste. Et donc c'est plutôt un condensé de plein de textes fouillis sur des pages volantes que j'avais.
Il y a quelque chose de commun aussi à vos deux ouvrages, c'est que la forme même, les outils que vous choisissez pour raconter ces histoires, que ce soit graphiquement ou même dans la typographie, renvoie à quelque chose de l'enfance. Le crayon de couleur, c'est un outil de l'enfance. Les couleurs que vous choisissez, la gamme de couleurs que vous choisissez tous les deux, c'est des couleurs de l'enfance. Est-ce que ça, c'était quelque chose de conscient chez vous, ou est-ce que vous saviez que en utilisant ces outils-là, vous renvoyez aussi de manière indirecte à votre propre enfance, Thomas Brosset?
Moi, j'ai vraiment pas le choix. Je dessine comme ça. Je sais pas vraiment dessiner autrement. J'ai été un dessinateur frustré pendant 30 ans. J'essayais de dessiner ce que j'avais en face de moi et de bien le dessiner, entre guillemets. J'y arrivais pas du tout, donc j'étais très malheureux. Et puis, j'aime bien raconter que ce sont mes filles qui m'ont appris à dessiner parce que, en fait, quand elles ont commencé à attraper les pinceaux, je les ai vues, mais avec tellement d'assurance, de détermination et de bonheur, en fait, à tracer des traits, quoi. Dis-moi, mais je veux faire ça aussi. Et ça a quelque chose qui a lâché, et du coup j'en suis arrivé à ce dessin, et et c'est vrai que je dessine, je me sens, il y a quelque chose de très connecté à l'enfance quand je dessine. C'est vraiment comme si j'avais mes Playmobil ou mes bonshommes de la guerre des étoiles. Je dessine assez près du papier, et puis quand ça marche bien, j'oublie que je dessine et je fais parler les petits personnages,
Je joue.
C'est drôle parce que en vous écoutant, je me dis qu'on perçoit aussi en lisant vos livres quelque chose de l'état de l'enfant qui dessine, tout simplement, de l'état de joie, de jubilation qui est celui d'un enfant ou d'un adulte qui dessine. Mais je pense qu'un adulte qui dessine, il retrouve quelque chose d'un état qui a à voir aussi avec l'enfance.
Ouais, complètement. Dans le jeu, dans le fait de créer un monde, dans le fait de, je pense, de chercher une grande liberté, de... il y a ce rapport-là, en tout cas pour moi, qui est très important, ouais.
À quel moment vous avez formé, vous, le projet d'écrire ce livre, Thomas Brosset? Est-ce que c'était contemporain à ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire ce moment où il vous faut vous occuper de vos parents âgés, malades, fragiles, et puis atteints, pour ce qui est de votre mère, de la maladie d'Alzheimer? Ou est-ce que c'est arrivé à posteriori?
Non, ça s'est passé, ça a été rattrapé par l'histoire. En fait, c'était un rêve de gosse de faire de la bande dessinée. J'en faisais pas du tout. Parallèlement à ça, quand j'allais voir mes parents ou quand j'allais voir ma mère, donc qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, je racontais des anecdotes, entre guillemets, à ma famille. Elle me disait, mais ça, vraiment, tu pourrais la raconter, parce que c'est pas rien, quoi. Et c'est vrai que c'est pas rien, hein, de parler à des gens qui ont des troubles cognitifs comme ça. Et puis, un jour, je m'y suis mis, et tout de suite, j'ai commencé à dessiner sur ces histoires. En fait, je l'ai fait, mon père était décédé et ma mère était rentrée en maison de retraite. Donc, c'est le moment où, moi, j'ai commencé à souffler, parce que c'est plus moi qui étais aux manettes, et j'étais tranquille. Ma mère était en sécurité, j'avais pas... Voilà. Typiquement, son décès est intervenu alors que je pensais quasiment avoir fini le livre. Donc, la réalité est venue rattraper le livre, ouais.
Est-ce que dès l'origine du projet, il y avait, parce que l'une des forces et des singularités de cette bande dessinée, c'est ces allers-retours constants entre le présent de votre présent, le présent de votre personnage qui accompagne donc ses parents et qui vit avec sa femme, ses deux filles, ses deux petites filles, ses deux jeunes enfants, et puis des renvois vers le passé qui fonctionne par un système très très intelligent. C'est un peu comme sous forme de raccord au cinéma. Il y a un événement, la présence d'un motif qui nous renvoie à un événement du passé de plein de manières. Est-ce que ça a été là tout de suite, ou c'est arrivé petit à petit?
Ça arrivait assez vite. Je crois que, en fait, c'est qui s'occupe de qui, en fait. Et effectivement, c'est très troublant, parce que dès lors que mes parents se sont retrouvés en difficulté, je leur prends la main. Enfin, ça change vraiment le... Voilà, il faut s'occuper d'eux. C'est normal. Mais du coup, ça renvoie aussi au moment où il
s'occupait de vous.
Il s'occupait de moi. Ça fait un ping-pong. Moi, j'adore aussi... Alors après, il y a l'histoire de la mémoire familiale, de se retrouver face à des personnes qui ont des troubles de la mémoire et qui, du coup, re-racontent une histoire familiale qui n'est pas du tout celle que moi, je connais.
Qui sont eux-mêmes renvoyés à des souvenirs qui ressurgissent et que vous, enfants, vous connaissiez pas forcément.
Exactement. Donc ça redessine une espèce de cartographie de l'histoire familiale qui est très troublante, enfin, et qui dit beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est pas un délire. Hein. Donc ça dit des choses. Et puis... j'ai oublié ce que je voulais dire.
Non, mais c'est déjà pas mal. Ouais. On va écouter un extrait de ce livre. Allô, monsieur Brosset ? La gendarmerie d'Avrier à l'appareil. Nous sommes venus chercher votre maman sur le parking de Leclerc. Elle était complètement perdue et voulait rentrer à Paris. On l'a amenée au CHU. Purée, le CHU. Allô, le CHU ? Ma mère, madame Brosset ? Ah, vous l'avez renvoyée chez elle ? Aucune raison de la garder ? J'appelle Babou, ça répond pas. J'appelle Lucette. Allô, Lucette ? Dites-moi, je suis embêtée, Pierrette. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Babou. Non, ne vous inquiétez pas, Thomas. J'irai avec Pierrette chercher sa voiture. Je rappelle ma mère. Allô, maman ? Tu es à la maison ? Tu as été chercher ta voiture ? Babou, elle a été arrêtée par la police. En stop ? Tu es retournée la chercher en stop ? Oh, oh. Allô, Lucette ? Thomas encore. Plus besoin d'aller chercher la voiture. Tout va bien. Ouf. Ces deux planches de votre bande dessinée, Thomas Brosset, vous représentez une succession de cases qui vous représentent au téléphone, appelé un certain nombre d'interlocuteurs, alors que votre maman est partie. Planche qui matérialise cette espèce d'inquiétude, d'affolement récurrent qui intervient parce que votre mère s'enfuit des endroits où elle est, parce qu'elle commence à perdre la tête, parce que c'est la matérialisation de la maladie d'Alzheimer. Ce que je trouve très beau dans cette planche-là, c'est que cette forme du gaufrier, cette forme des cases, le rythme propre de ce langage graphique-là, matérialise l'espèce de tension intérieure qui est celui de votre personnage à ce moment-là. Comme si ce langage graphique-là, il pouvait dire quelque chose de ce type de sensation-là.
C'est ce que j'ai essayé de faire aussi, enfin, évidemment, à la fois pour transmettre l'histoire, je pense, puis parce que ça, vraiment, c'était une manière pour moi de re-raconter l'histoire, de mettre à de poser certaines de mes émotions, c'est un livre qui m'a, j'ai cherché à me faire du bien en écrivant ce livre, ça c'est évident.
Et avec succès, ça fait du bien,
Bien
de raconter
sûr.
Une histoire
parce
comme
que ça engage un dialogue avec soi-même. Après, ce qui est super, c'est de voir dans la vie du livre, après, c'est que ça, on se raccroche aux autres. Mais pour l'écriture de ce livre, par exemple, je sais pas si c'est une méthode, mais j'ai pris l'habitude d'écrire sur un carnet et d'écrire. Pas forcément le scénario des planches, ça arrive à un moment, mais avant d'écrire mes questions, quoi, de dire comment je pourrais parler de ça, ou comment je vais, il faudrait que je trouve un moyen de faire passer qu'il y a un Thomas qui est jeune et un Thomas qui est adulte, et je pose les questions à mon cahier et ça vient après, soit trois pages plus tard, soit trois jours plus tard, Et du coup, c'est vraiment une histoire de dialogue intérieur qui se tisse à cet endroit.
C'est intéressant comme méthode, ça vous parle ça, Lucie Morel ? Ça vous arrive aussi d'écrire les questions qui se posent vous pour raconter l'histoire ?
Totalement, je crois qu'il y a vraiment cette idée d'intention. On a une intention en tête et on ne sait pas du tout comment la mettre en œuvre. En tout cas, moi, pour ma part, avec aucun bagage en BD, vraiment, j'ai fait, je crois, quatre débuts de Toc Toc. Et c'est en faisant un début qui, au bout de 4-5 planches, je me dis, mais en fait, ça marche pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais je savais pas comment dire ce que je voulais dire. Et en fait, c'est en faisant, et c'est ça que je trouve magique et génial, parce que c'est en cherchant qu'on trouve, mais des fois, on sait pas comment dire ce qu'on veut dire.
Vous disiez tout à l'heure que c'est votre psychologue qui vous invite à faire ce livre, qui vous conseille de faire ça. Est-ce que, de fait, ça fait du bien ? Est-ce que il y a une dimension thérapeutique dans cette écriture-là ?
Oui, évidemment. Je pense que pendant très longtemps, moi, j'ai dit que non, c'était un cadeau que je faisais au monde pour les autres qui avaient des tocs et qui n'arrivent pas à en parler, ou pour le livre que mes parents auraient pu avoir besoin quand j'étais petite, ou que moi j'aurais eu besoin. Et mais en fait, non, je pense qu'on le fait avant tout pour soi. Et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais.
Il y a quelque chose qui fait écho aussi dans vos deux ouvrages, c'est la façon dont vous trouvez des manières de vous représenter. On a parlé de cette idée graphique, des pensées qui arrivent dans la tête, mais il y a tout un travail plus général dans votre bande dessinée, Lucie Morel, sur les visages. Je pense par exemple à ce début, avec je pense que vous avez travaillé avec à partir d'une photo de vous-même nourrisson, oui. Tout petit bébé, mais où vous faites quelque chose sur la photo, vous allez nous dire quoi, qui fait que le visage, il est un peu déformé, légèrement déformé, ou dans les parties dessinées simplement au crayon de couleur, il y a tout un travail sur la déformation des visages qui leur donne un aspect grotesque, des gros nez, voilà, quelque chose à la fois un peu effrayant et qui, là encore, renvoie à quelque chose d'un imaginaire de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Oui, bah en fait, je tout comme j'aime pas les photos posées ou trop mignonnes, j'adore les visages expressifs, j'adore les rires carnassiers, j'adore. Et dans le dessin, ce que je cherche à faire, c'est qu'il y ait une expression vraiment qui ressorte avant que le dessin soit beau. Et après, c'est aussi parce que ça me gênait aussi parfois. Bon, déjà parce que ça me fait rire, en fait. J'adore faire des gros nez, j'adore que les personnages soient moches et qu'ils soient marrants. Mais c'est aussi parce que je me suis représentée tout le long du livre. C'est quand même un livre sur moi. Donc j'avais pas envie de me représenter de manière lisse et mignonne. Mmh. Et j'ai aussi vachement joué, justement, avec toutes les manières de se représenter. Et puis j'ai différentes techniques. Les dessins photographiques, la base, elle est faite avec une table lumineuse. Donc il y a vraiment un côté recopiage, en tout cas pour ce qui est de la base, même si après je regarde la photo. Après, il y a aussi des photos, des dessins où je regarde la photo, mais je dessine librement. Et puis après, il y a, c'est vraiment, et je trouve que c'est rigolo. Et puis en plus, ça montre les différentes images, les différentes visions qu'on peut avoir de soi-même ou des autres. Et quand on est enfant, on voit ses parents d'une certaine manière, on voit les adultes d'une certaine manière, on se voit soi-même. Donc je voulais montrer ça, comment je me voyais quand j'étais petit, comment je voyais le monde, et comment ça évolue aussi au fil des pages. Cette vision du monde, quoi.
Il y a ce truc aussi, quand on est enfant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cette chose un peu fascinante où on peut se regarder dans le miroir, quoi, comme ça, pendant très longtemps, en réalisant, en se regardant soi comme si on était un autre avec un effet de vertige. Vous, Thomas Brosset, vous dessinez et vous représentez tous les personnages de votre livre avec un trait extrêmement simple, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau, c'est que parfois, pour matérialiser le poids, en tout cas c'est la sensation que ça donne, le poids qui pèse sur les épaules de votre personnage, vous le représentez avec un dos courbé. Tout d'un coup, la ligne de son dos est plus affaissée que d'habitude. Ça vous a pris longtemps de trouver la silhouette de vos personnages?
Non, je crois pas. Moi, je dessine des corps, ils n'ont pas de vêtements. J'aime bien cette idée. Comment dire, les vêtements, ça marque tout de suite quelque chose, socialement, géographiquement, ça donne des indications et dont moi j'avais pas besoin de parler. J'ai l'impression, mais je pense comme beaucoup de gens qui décident peut-être, mais moi quand je dessine, souvent je le ressens dans mon... Je ressens la posture dans mon corps, voire je me lève et j'essaie de la mimer. Je me prends pas en photo, mais j'ai vraiment, il y a un ressenti. Et c'est le langage corporel, pour moi, il est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, dans mon dessin, je m'intéresse pas du tout aux particularités, par exemple, de visage. C'est pour ça que il y a un système couleur pour les cheveux, parce que comme c'est dessiné, bon voilà.
Ouais, votre personnage, il a les cheveux bleus, c'est comme ouais, ça qu'on le reconnaît.
Voilà, il fallait trouver un moyen de reconnaître les personnages facilement. Mais par contre, sur le langage corporel, les yeux, les pupilles, les épaules, tout ça, ça dit beaucoup de choses.
Ouais. Ouais, et c'est ce qui donne aussi un sourire à vos deux ouvrages. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque mardi à 7h arrive le moment de s'intéresser à la littérature jeunesse, et c'est vous, Raphaël Bott, qui nous en parlez aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Cette semaine, vous aviez envie de mettre en avant des livres qu'on pourrait présenter comme des classiques récents.
Il y a cette zone un peu grise entre les grands classiques archi-connus, les Chiens bleus, les Petits bleus et Petits jaunes, les Trois brigands et tant d'autres, et les classiques plus récents qui tentent de se frayer un chemin entre les nouveautés et les cadors du passé. Deux livres qui font donc partie de cette catégorie gentiment endormie viennent tout juste de ressortir. Ce sont donc des nouvelles éditions d'ouvrages qui étaient épuisés, en l'occurrence de Colin et Pauline et de La Reine des abeilles. Le premier est signé d'Anne Trottereau. Et le deuxième est un conte des frères Grimm, et ils sont illustrés par celui dont j'ai tant envie de vous parler aujourd'hui, Philippe Dumas.
Philippe Dumas est un illustrateur, mais aussi un auteur. Il a commencé à publier au milieu des années 70 et a été parmi les grands noms des décennies suivantes.
Peut-être que si j'évoque la série Laura, certains de ceux qui nous écoutent souriront en se souvenant de cette grosse chienne Terre-Neuve au pelage noir qui était assez désobéissante. Et puis, plus récemment, c'est aussi lui qui a illustré le merveilleux Miss Charity de Mario de Muraille.
Mais revenons à ces récentes rééditions dont vous nous parlez, Raphaël. La Reine des abeilles, donc, qui avait été publiée pour la première fois, illustrée par Philippe Dumas, au milieu des années 80. C'est un conte des frères Grimm.
Alors, Philippe Dumas, il appose ses dessins. Côté histoire, c'est celle de trois princes, deux aînés et un Benjamin pris de haut par les deux autres. Le petit dernier passe son temps à protéger des fourmis, des canards et des abeilles de ses frères. Et les trois garçons se réveillent un matin dans un château avec des épreuves à réussir. La grande idée de Philippe Dumas a été de se transporter dans notre monde contemporain. C'est comme si les enfants de son livre jouaient au prince, se glissaient dans la peau des personnages des Grimm. Ils portent des vêtements actuels, le cadet à la peau noire. L'illustrateur rend le texte intemporel et sur la dernière image, on devine les silhouettes des frères Grimm qui regardent les enfants s'éloigner dans la nature.
La nature et même la ruralité, l'enfance, sont parmi les grands thèmes explorés par Philippe Dumas et que l'on retrouve aussi dans Colin et Pauline.
Je vais vous lire le début du texte. « La main dans la main, sous leur pèlerine, Pauline et Colin grimpent la colline, croquent des raisins et de la résine, suivent le lapin jusqu'à la sapine. » Parmi le crottin, le corbeau clopine vers un marcassin cassant des racines. Enfin, vous entendez, j'imagine, que le texte a des allures de comptine. Il est signé, je l'ai dit tout à l'heure, Anne Trottereau. Et il retrace l'après-midi de deux enfants qui sont libres dans la nature. Et Philippe Dumas en dessine chaque moment. Il y a une monographie là qui vient de lui être consacrée et qui est sortie, dans laquelle il explique à quel point il a vraiment dessiné et non illustré Colin et Pauline. Et d'un trait à l'encre noire, il colle au texte. Il y a des détails partout, des épines, des feuilles de toutes formes, des mousses, des brindilles. On peut évoquer Sempé pour ce talent à caractériser les scènes et les personnages, mais aussi pour ceux qui visualisent son travail, Rodolphe Töpfer, qui est le dessinateur suisse qui est souvent considéré comme l'un des créateurs de la bande dessinée au 19e siècle. Avec Philippe Dumas, on sent un regard sur la vie. C'est comme si son dessin tentait de la comprendre pour la restituer. Il y a quelque chose de spontané, d'éminemment vivant et surtout d'enfantin. Il met en image les bêtises, les hésitations, les attitudes. Ça sent l'enfance.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous teniez à saluer ce travail de réédition.
Eh ben, je trouve que les livres qui sont créés aujourd'hui, ils sont aussi le fruit de ces références, de ce terreau. Et les maintenir en vie, les faire redécouvrir, c'est une tâche qu'accomplissent avec rigueur et ténacité les éditions Mémo. Ce sont celles-là qui rééditent La Reine des abeilles et Colin et Pauline. Christine Moreau, qui a cofondé la maison, elle parle des livres d'avant et de maintenant. Ceux qu'elle choisit de rééditer sont chevillés par une modernité éternelle qui coule entre leurs lignes, leurs traits et leurs couleurs. couleurs. C'est un travail de réédition et c'est pas une simple réimpression. C'est un choix de papier, de mise en page. C'est une réflexion pour dépoussiérer parfois une première édition ou même l'améliorer.
C'est pas la seule maison à accomplir ce travail.
Ben non, Mathilde, bien sûr. Et l'essentiel de l'œuvre de Philippe Dumas est publié en l'occurrence à l'École des loisirs, qui vient, elle, de rééditer entre autres Le convive comme il faut. Et je vous invite à vous plonger dans ce livre parce qu'en ces veilles de repas familiaux de fin d'année, je peux vous dire que ce livre qui épingle assez savamment les mauvais comportements à table est une mine d'or, un peu comme un livre de bonne manière à l'ancienne mais conçu à l'envers.
On découvre ou redécouvre Philippe Dumas, il est encore temps de glisser ses livres sous le sapin. Je précise qu'un autre petit bijou sera réédité au printemps par l'École des loisirs, Odette, un printemps à Paris. Toutes les références à retrouver sur le site de la chronique Lecture Jeunesse et sur l'application Radio France. Je remercie très rapidement nos deux invités, Lucie Morel et Thomas Brosset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ces deux bandes dessinées. Toc Toc, la vôtre, Lucie Morel, apparue aux éditions Même Pas Mal. Et tous derrière et eux devant, Thomas Brosset, aux éditions Flubble. Un grand merci aussi à l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, tout particulièrement Anna Olvek à la réalisation aujourd'hui et à la technique, Paul Guigues.